6h03, vendredi 9 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec un ciel qui est dégagé, mais ça va se couvrir. On a moins 2 degrés ce matin, c'est vraiment pas chaud. La pluie va commencer au cours de l'après-midi. Un maximum pour aujourd'hui de 4 degrés. Ce soir et cette nuit, de la pluie, parfois mêlée de neige, avec des vents de 20 à 40 km/h. On parle d'un minimum de plus 1 pour la soirée. Et des températures qui seront à la hausse pour atteindre 5 au cours de la nuit. Demain, samedi, toutes sortes de choses. C'est de la pluie, surtout, qui va cesser le matin. Après quoi, soleil, nuages et possiblement quelques flocons de neige. Il n'y a pas d'accumulation pour Montréal, contrairement à ce qu'on prévoit pour Québec, en fait, plus au nord même, où là, il y aura de la neige en fin de semaine et de la neige qui va demeurer. Pour Montréal, non. Des vents jusqu'à 40, 50 et peut-être des rafales en mi-journée demain, 70 km/h et température à la baisse pour atteindre 2 degrés en après-midi. Finalement, dimanche, on aura du soleil avec un maximum de moins 1 et lundi, du soleil également, 2 degrés. Marc rappelle, et va vous le rappeler encore une fois, les chantiers, les entraves pour la fin de semaine. Ça a commencé évidemment depuis minuit, partiellement. Et c'est sûr qu'en fin de semaine, l'accès à l'île de Montréal ne sera pas facile. Je dirais la circulation tout court, là, même sur la rive sud, parce qu'il y a des effets de débordement, des gens qui vont vouloir prendre la 30 comme voie de contournement. Il y a des travaux aussi, des entraves sur la 132. Alors, accès limité et de deux choses l'une, où il y aura des files d'attente, où il n'y aura pas beaucoup de monde parce que les gens vont avoir compris qu'on ne prend pas sa voiture pour venir à Montréal en fin de semaine. Reste évidemment l'option du transport en commun quand c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend où vous allez, à quelle heure vous y allez. Mais c'est vraiment majeur. Et lundi matin, ça risque aussi d'être assez compliqué pour ce qui est des travaux. Bon, dans les nouvelles, d'abord, parlons du budget de la Ville de Montréal qui a été présenté hier. Il y a une augmentation du compte de taxes pour les citoyens, moins élevée que l'an passé. La Ville, donc, se tient au niveau de l'inflation. Cependant, que vous devez savoir, c'est que le compte de taxes va augmenter de façon importante selon l'endroit où vous habitez. Je regardais les arrondissements. Donc, ce sont des augmentations quand même importantes là, qui ont été annoncées. Je pense entre autres à Côte-des-Neiges, là, où l'augmentation va être très forte. Il y a des villes comme dans l'ouest de l'île, des banlieues, là, qui voient aussi l'augmentation quand même importante. Alors, si on regarde, Onsic-Cartierville, c'est 1,5 %, mais si vous allez, par exemple, dans Villeray, c'est au-dessus de 2 % d'augmentation. Rosemont-la-Petite-Patrie, 2,5 %. Le Plateau, 2 %. Alors, c'est sûr qu'il y a des augmentations quand même qui sont substantielles. La bonne nouvelle pour les commerçants, il y a une baisse qui peut représenter jusqu'à 10 % du compte de taxes. Des commerçants qui m'ont écrit, entre autres, me dire que ben bon, c'est mieux que rien. Mais c'est sûr que Montréal demeure encore un endroit hyper taxé. Puis il y a un des commerçants, notamment, qui a ouvert il y a à peu près un an, me dit-il, là, dans l'est de Montréal, puis il dit « le loyer est cher, les taxes sont élevées, la clientèle est parfois découragée par les fameuses entraves à la circulation ». C'est sûr, c'est sûr. Et hier, dans le budget, on a annoncé qu'on va donc, encore une fois, investir massivement pour des travaux majeurs dans tous les arrondissements de Montréal, parce qu'on le sait, on a été négligent pendant des années, et donc il faut faire du rattrapage. Il y a les deux, là, il y a ce que j'appelle des opérations cosmétiques, puis il y a des opérations plus en profondeur. La question qui demeure toujours, c'est combien ça coûte à chaque fois, la qualité des travaux. Cette étude qui nous explique que ça coûte plus cher à Montréal qu'ailleurs, là, puis on va me sortir sans doute de savantes équations, mais ça coûte plus cher. Et la cohésion, la coordination n'est pas au rendez-vous. Puis là, je ne parle plus de la signalisation parce que c'est une joke. Montréal est une farce en termes de signalisation. Puis ça, c'est pas juste la ville, là. Ça inclut également Transport Québec qui affiche constamment son mépris des automobilistes. Mais bon, d'autres discussions. Alors, vous dire que le budget est déposé. Et là, l'autre bonne nouvelle, par contre, c'est que comme les taxes, c'est tellement cher, vous allez avoir plus de temps pour les payer. Donc, plus de paiements possibles. On va étaler les montants qui sont payés. Alors, il n'y aura pas que deux moments dans l'année. Vous allez pouvoir y aller avec plusieurs versements. Voilà pour ce qui est du budget. On va recevoir Benoît Doré, tantôt le président du comité exécutif. Pour ce qui est de la Société de transport de Montréal, là, on a un objectif de faire passer les métros aux 5 minutes maximum toute la journée, du lundi au vendredi, ligne orange et ligne verte dès le mois de mars. Donc, évidemment, pour répondre aux besoins, on sait que la ligne orange, durant ces moments-là, c'est assez pacté. Et aussi, on veut augmenter l'offre, la proposition pour ce qui est des autobus. Alors, sur le chapitre du transport en commun, c'est une bonne nouvelle si on peut avoir une cadence qui soit intéressante. Et hier, je parlais justement avec des gens de transport en commun. C'est souvent ça le problème. C'est pas que les citoyens veulent pas utiliser soit le métro, soit le train de banlieue. Ce sont les horaires parfois qui... je pense au train de banlieue, là. Il y a des moments dans la journée ou encore le week-end, tu le prendrais, mais tu es obligé d'attendre 45 minutes. Puis si tu le manques ou s'il y a un problème, bien là, tu peux poireauter une éternité. Et tant qu'on n'investira pas massivement dans, d'abord, les stationnements incitatifs, puis on le voit, là, quand l'offre de service existe, que ça répond à un besoin, les gens prennent le transport en commun. Il n'y a pas beaucoup de gens là, qui, par choix, aiment ça tous les jours, se planter dans des bouchons de circulation. Et ceux et celles qui le font, bien souvent, c'est parce que la nature de leur travail fait qu'ils n'ont évidemment pas le choix. Parlons également du dossier de Bombardier. Hier, la compagnie y est allée de ses opérations de relations publiques. Et moi, ce que je retiens, au-delà des emplois, bien sûr, c'est évidemment la clé, là. On parle de 2500 emplois dans la région de Montréal. On pense que plusieurs vont pouvoir se retrouver du travail dans l'industrie parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de postes de disponibles. Mais c'est l'attitude de Bombardier. Et c'est ça qui, je pense, c'est le plus marquant. On en a parlé hier, là. D'abord, incapable d'annoncer convenablement, et je dis à M. Marcille de Bombardier de nous foutre la paix avec son histoire de marché boursier, puis qu'on ne peut pas, c'est de la frime. Il y a plein d'entreprises publiques titrées en bourse qui ont plus de respect pour les employés que Bombardier et qui peuvent annoncer des nouvelles qui font mal, mais en respectant les travailleurs. Ce que Bombardier est incapable de faire, ils n'ont pas de classe. Ça, c'est la première chose. Et tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est payer des gens pour essayer de nous endormir avec du sirop dans les communiqués. Mais l'autre chose, c'est qu'on a mis de l'argent dans Bombardier, la Caisse de dépôt et le gouvernement du Québec. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression, et on en a parlé avec Pierre-Yves, de se faire avoir assez solidement par Bombardier. Et au terme de l'exercice, on sait très bien que Bellemare et compagnie vont collecter tous les bonis et les millions qui sont rattachés à leur poste. Alors, tu sais, il y a quelque chose où tu as un malaise. Les boss s'enrichissent, méprisent les employés, font des mises à pied, têtent les gouvernements, puis ils ne nous regardent en rien. Et pourtant, Bombardier a été longtemps ce qu'on appelle un fleuron de l'économie, puis les gens étaient fiers de l'entreprise puis du développement de cette compagnie-là. On peut dire que ça a changé pas mal. 6h12, on va retrouver Marc pour voir un peu comment va l'heure de pointe. Évidemment, 700. Bien, on parlait de mise à pied tantôt chez Bombardier. Hier aussi, à la presse, on a appris qu'il y aura des départs volontaires ou si on n'a pas le nombre requis, on va forcer des départs, mais c'est des pertes d'emplois pour la presse qui tente d'établir son modèle d'affaires, évidemment, on le sait, et que c'est pas facile. C'est pas facile pour la presse écrite en général. Et c'est inquiétant. Je sais qu'il y a des gens qui, évidemment, n'aiment pas les médias, puis on peut faire plein d'autocritiques. Mais excuse-moi, j'aime vivre dans une société où il y a pluralité de médias, où j'ai plus qu'une source ou deux d'informations, ou que je n'ai pas la même nouvelle dans 3-4 médias, c'est pareil. Moi, j'aime ça pouvoir aller chercher de l'info dans différentes sources. Et je regarde, là, le marché québécois, la presse est en difficulté, le devoir, on comprend que ça survit, là, ils font une bonne job. Et il y a le Journal de Montréal qui, évidemment, est soutenu grâce à l'Empire, puis à Vidéotron, puis l'argent. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que le Journal de Montréal, là, ça génère autant d'argent qu'il y a plusieurs années. Alors, c'est inquiétant. Et donc, des postes qui vont disparaître. Puis est-ce qu'il y aura d'autres perte d'emploi. Est-ce que ce modèle-là va tenir la route? Maudite bonne question. Et on va recevoir l'éditeur un peu plus tard ce matin. Je vous parlais la semaine dernière de l'Institut Pinel. Bien, là aussi, on abolit des postes. Et ça a été confirmé hier, 37 postes de sociothérapeutes. C'est quoi un sociothérapeute? C'est l'espèce de pivot entre le médecin, l'équipe professionnelle, si on veut, et le patient. Donc, des gens qui vont accompagner les détenus qui sont à Pinel, patients, là, si vous voulez. Puis on sait que ce sont des soins directs qui sont donnés aux patients. Alors, on peut s'attendre peut-être à une perte, disons, de rendement dans les traitements. Et on verra les conséquences de ça. Je sais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels qui pensent que la direction n'a pas une bonne approche. Certains prétendent que le conseil d'administration n'a pas été informé correctement. Mais Pinel, là, c'est les cas les plus lourds. Là. On parle de criminels, de gens qui sont là parce qu'ils sont inaptes à subir un procès ou encore à être reconnus coupables. Et on est supposé les soigner pour les faire éventuellement réintégrer la société. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a... J'ai rien contre ça, là. Qu'on embauche des agents d'intervention, là, des gardes de sécurité, puis que finalement, on ait peut-être plus d'infirmières, alors que ces agents, donc, sociothérapeutes, eux, avaient quand même un rôle clé. Et c'est pas juste le syndicat qui le dit. Il y a beaucoup de médecins qui soulignent la même chose. Je veux vous parler également ce matin de M. Yvon Cournoyer. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Ça va faire un an dimanche que M. Cournoyer a reçu l'aide médicale à mourir. Et on avait, à partir d'un simple courriel, gardé une relation avec lui. Pendant tout ce temps-là, il avait reçu un diagnostic de la maladie de Lou Gehrig en janvier 2015. Il a vraiment affiché de façon claire ses volontés. Il voulait mourir dans la dignité. Son état de santé s'est détérioré au fil des mois. Il a perdu l'usage de ses jambes, commencé à avoir un peu plus de difficultés à s'exprimer. Et surtout, et ça je me souviens, il me l'a tellement répété, cette espèce d'obsession d'être digne et d'être autonome le plus longtemps possible. Et il a donc reçu l'aide médicale à mourir légalement le 11 novembre 2017, entouré de ses proches et de sa conjointe Chantal Fafard. Il était avec nous l'an passé, c'était le 10 octobre, quelques semaines avant sa mort. Et je tenais d'abord à saluer sa famille ce matin et à vous faire entendre à nouveau M. Cournoyer. Quand on va approcher de la date, vous n'avez pas peur de changer d'idée en cours de route, de dire là...
Changerai jamais
d'idée. Non, hein?
Non, je suis déterminé parce que j'aimais tellement la vie, j'étais tellement actif. J'ai hâte de me libérer de mon corps. La souffrance que j'ai, c'est beaucoup psychologique. C'est peut-être bizarre qu'est-ce que je vais vous dire. Depuis l'été qu'on vient de passer, même jusque depuis le début de ma maladie, j'ai peut-être passé une partie des plus beaux moments de ma vie quand même. Parce que j'ai eu tellement de beaux témoignages. Le monde a le temps de venir me voir, puis moi j'ai le temps de leur dire combien je les aime. Je pensais jamais dire ça un jour, que c'est une sorte de chance que j'ai. Tu sais, jusqu'à la dernière minute, mes gens proches de moi, ma conjointe, on va pouvoir se dire qu'on s'aime. Puis m'apprendre soin de mes proches, même quand il est parti.
Impressionnant. Et c'est un souvenir que j'aurai toujours en mémoire, je dirais à la fois la lucidité et la fierté de M. Cournoyer. Donc, ça va faire un an dimanche. Également, un peu plus tard ce matin dans l'émission, on va souligner le jour du souvenir, cette pensée qu'on a pour les militaires, les anciens combattants, peu importe, comment ils ont servi le Canada, où ils sont intervenus, à quelle période de l'histoire. Il faut évidemment prendre le temps de les saluer ce matin. Aussi, il faut revenir sur l'affaire de Tony Clements. C'est quand même assez aberrant quand on y pense, là. Tu sais, ta vie personnelle, ça t'appartient, là, puis tes petits fantasmes, puis bon. Puis tu peux avoir des moments plus durs dans ta vie, mais quand t'es député, membre du comité parlementaire sur la sécurité nationale, que tu supervises comme député, le travail des agences policières et de renseignement, tu t'exposes à du chantage. Et là, tu dis, bon, il a fait une gaffe, Puis hier, on apprend que c'est pas une, mais deux fois où il s'est placé en position difficile et donc en se faisant faire une tentative d'extorsion. Alors, M. Clement, il a parlé donc d'actes d'infidélité qui l'ont placé dans une position de chantage. Alors, il avait parlé dans un premier temps d'un cas, et je rappelle qu'il est marié, là, père de trois enfants, député depuis 2006. Et il a expliqué donc qu'il avait eu une période difficile de faiblesse et qu'il était entré dans des échanges inappropriés avec une femme. Et que probablement plusieurs femmes, mais que dans un cas, il y a eu échange de photos. Et là, il a envoyé des photos intimes de lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a demandé de l'argent parce qu'on menaçait, évidemment, de rendre ça public. Et je vous le dis, c'est arrivé deux fois. Là, la police enquête. Il est allé voir la GRC, évidemment, pour dire ça. Et là, on se demande qui est derrière ça. Est-ce que c'est des gens qui sont tombés sur lui par hasard? Parce qu'il y en a beaucoup là, qui se font comme ça avoir, on le sait. Qui pensent qu'une jeune Ukrainienne de 22 ans est follement amoureuse d'eux, alors que finalement, c'est juste une façon d'aller chercher de l'argent avec la menace de publier. Puis souvent, quand on les coince, même si les gens ont payé, la photo peut se retrouver sur les médias sociaux. Alors, il y a une enquête de police là-dessus pour savoir est-ce qu'il était ciblé, est-ce qu'on l'avait identifié parce que c'est un député, ou il est tombé, comme on dit, entre les mains de criminels par hasard, comme d'autres également à qui ça arrive. Aussi des chiffres ce matin, c'est au Québec où le mouvement « Moi aussi » a généré le plus de plaintes. On découvre donc que les agressions sexuelles confirmées par la police ont bondi de 61% au Québec à l'échelle du Canada. La moyenne enregistrée est de 24%. Ce sont des données de Statistique Canada. Et elles ne concernent que les dénonciations jugées fondées par la police. Ce n'est pas toutes les plaintes. Mais tous les cas où il y a eu une enquête et qu'on a conclu que c'était fondé, ça veut dire qu'au Québec, c'est l'endroit où il y a le plus donc d'agresseurs sexuels qui ont fait l'objet d'accusations. Je sais, vous allez me dire, il y a beaucoup de dossiers qui traînent en longueur, ça prend du temps, puis là, il y a des dossiers des gens connus, comment ça se fait que ça aboutit pas. D'autres cas aussi où ça je dirais, des cas moins connus, là, mais qui sont rejetés. On reçoit souvent ici des courriels de gens qui se plaignent en disant « j'ai déposé une plainte, ça fait un an et demi, puis on vient de me dire que ça fait trop longtemps, il n'y a pas assez de preuves, pas capable de corroborer. » Et puis un mot également, puisqu'on est dans les chiffres ce matin, les actes antisémites. Parler de l'attentat à la synagogue de Pittsburgh. Donc, les actes antisémites sont en hausse de 69% en France. Quand on parlait de juifs vivant en France, qui quittait, c'est une de ses raisons. En disant que ce sont, et ça c'est le premier ministre français qui, sur Facebook, dit que c'est absolument assommant, sur les 9 derniers mois. Donc, une augmentation majeure. Chaque agression perpétrée contre un de nos citoyens, parce qu'il est juif, résonne comme un bris de cristal, dit le chef du gouvernement Édouard Philippe. Alors que c'était en baisse depuis 2 ans, le nombre de ces actes a augmenté. Et là, vous avez tous les actes qu'on peut imaginer, que ce soit des profanations, que ce soit des agressions. Bref, l'antisémitisme se porte bien en France. Il est 6h22. La métropolitaine.